santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tous les lundis à 6h30, 13h30 et 20h30. En rediffusion, le mercredi à 9h15.
Bien, nous parlons aujourd'hui dans Okapi Service du tarissement des cours d'eau en République démocratique du Congo. Quelles sont les causes et quelles sont les précautions à prendre et quelles sont les dispositions à prendre face à ce problème? Vous savez, la RD Congo n'est pas épargnée par ce phénomène mondial des tarissements des rivières, sources d'eau et lacs. Et sur près des 50 cours d'eau que compte, par exemple, la province du Katanga, 8 ont tari, d'après les informations reçues. Alors, qu'est-ce qui était à la base de cela? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions, comment prévenir les tarissements d'autres cours d'eau à travers la République? Eh bien, nous abordons nous aurons des réponses à toutes ces questions avec notre invité tout à l'heure. Vous avez des questions, des préoccupations, vous avez des témoignages, appelez-nous au 081 890 63 94. Professeur Chimanga Raphaël est hydrologue, il est notre invité. Professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Damien Kachama, je suis content. Et je vous remercie pour votre invitation. Merci.
Voilà, nous parlons aujourd'hui de l'assèchement des cours d'eau. D'abord, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par assèchement, tarissement des cours d'eau?
Oui. Avant que nous puissions parler de l'assèchement, comprenons-nous d'abord sur ce qu'on entend par un cours d'eau. Un cours d'eau, à mon entendement, je vais donner un peu une définition simple, c'est que c'est un canal naturel qui assure la fonction des transports de l'eau, des sédiments et le maintien des transports de l'eau et tout ce qui dépend de là comme biodiversité. C'est un peu ça la définition d'un cours d'eau.
D'un cours d'eau.
Voilà. Alors, il faut que nous puissions comprendre d'abord ce que c'est un cours d'eau avant que nous puissions parler de l'assèchement. Alors, ce canal se caractérise par des éléments de géométrie tels que la pente, nous avons la profondeur, la largeur, mais il y a aussi le substrat. Alors, il y a l'équilibre entre l'écoulement de l'eau dans ce canal et les éléments de la géométrie et le substrat qui créent des conditions de vitesse de l'eau, de température et d'autres éléments physico-chimique pour la survie de la biodiversité dans ces cours d'eau. Donc, vous trouvez que un cours d'eau, c'est tout un ensemble d'éléments de biodiversité, éléments biologiques, éléments physiques, éléments chimiques. C'est un peu cela.
C'est un peu cela. Alors, voilà.
Alors maintenant, d'aborder la question de l'assèchement.
L'assèchement.
Oui, oui.
C'est quoi l'assèchement des cours d'eau?
L'assèchement, si nous sommes dans un pays où l'eau n'est pas gérée, on attend l'absence totale de l'écoulement dans un cours d'eau pour que nous puissions parler de l'assèchement de ces cours d'eau. Cela ne nous aide pas, puisque nous allons atteindre un état de conséquences ou bien de non-retour. Mais dans un pays où l'eau se gère, c'est une autre définition. On n'attend pas assèchement d'un cours d'eau lorsque on n'observe plus dans ce cours d'eau un certain débit d'une certaine magnitude, d'une certaine durée et d'une certaine fréquence dans ce cours d'eau. Et cela était très important. Et cela est même réglementé par la loi. Puisque
Si je comprends bien, professeur, quand on parle d'assèchement, ce n'est pas la disparition totale de l'eau dans un cours d'eau, mais c'est plutôt une baisse donc du niveau d'eau, si on peut le dire ainsi.
Exactement. C'est l'eau a plusieurs fonctions. C'est ce que je peux dire. C'est que lorsque l'eau ne parvient pas à jouer les fonctions attendues, d'une certaine manière, nous parlons déjà de l'assèchement, puisque nous ne sommes plus à mesure de pouvoir répondre à certaines demandes en eau ou bien à certains besoins qui sont exigés pour l'eau, parce que l'eau manque dans les cours d'eau. Mmh. Alors c'est là ce que je suis en train d'expliquer comme assèchement. Donc je ne vois pas seulement la disparition de l'écoulement ou bien de l'eau dans les cours d'eau, mais je vois aussi, je pars un peu plus loin pour voir le manque d'exercice ou bien le manque d'accomplir certaines fonctions ou bien certains besoins, de répondre à certains besoins, certaines demandes qui sont attendues de l'eau à partir d'un cours d'eau donné.
Mmh. Et quelles sont ces demandes? Pouvez-vous le rappeler, professeur?
Nous avons la demande pour les besoins domestiques, mmh, l'eau à boire. Nous avons la demande pour la navigation. Nous avons la demande pour l'agriculture. Nous avons la demande pour l'hydroélectricité. Nous avons la demande pour la navigation. Et aussi, nous avons un être silencieux qui demande l'eau, c'est l'environnement. Nous avons aussi la demande pour l'environnement ou bien la biodiversité aquatique qui se trouve dans les cours d'eau.
Voilà, ce sont là les différentes demandes d'eau dans notre pays. Et lorsqu'on n'arrive plus à satisfaire ces demandes, c'est à ce moment-là qu'on peut parler déjà de l'assèchement ou du tarissement des cours d'eau. Alors, qu'est-ce qui est à la base de cela, de ces phénomènes de tarissement ou d'assèchement des cours d'eau, professeur?
Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant que nous puissions parler, aborder même la question des causes de l'assèchement, j'aimerais que nous puissions parler du fonctionnement des cours d'eau. Comment les cours d'eau est alimenté? Naturellement, il y a un phénomène d'infiltration. Lorsque il y a la pluie, nous recevons la pluie, et la pluie s'infiltre. Il y a une partie qui ruisselle, nous avons le ruissellement des surfaces, qui va atteindre directement les cours d'eau. Il y a une autre partie qui descend dans les sols lentement et qui va aussi atteindre les cours d'eau. Ce qu'on appelle, on peut appeler dans un terme technique le ruissellement latéral. Alors, il y a une autre partie très très importante qui descend dans les réservoirs souterrains qu'on appelle l'aquifère. Alors, cela va aussi contribuer lentement à alimenter les cours d'eau. C'est ça ce qu'on appelle les ruissellements ou bien l'écoulement des bases. Alors, toute rivière, tout cours d'eau, pour bien survivre, dépend de cet écoulement de base. Je peux vous donner un exemple.
Oui.
Nous sommes actuellement pendant la saison sèche. Il ne pleut pas. Mais vous voyez que les rivières continuent d'être alimentées en eau. Cette eau-là provient de l'écoulement que nous appelons écoulement de base, l'écoulement qui provient
de
l'aquifère. Et ça, c'est très important. Alors, lorsque nous comprenons cela, nous pouvons maintenant aller chercher les causes des tarissements. Alors, lorsque ce phénomène naturel est perturbé, là, nous allons voir que peut-être qu'il n'y a pas assez d'infiltration, il y a plus de ruissellement de surface, c'est que après la pluie, l'eau ruisselle rapidement, atteint la rivière, mais n'a pas une longue durée dans la rivière, s'écoule rapidement. Mmh. Voilà. Et il y a de moins en moins d'infiltration. Et cela va faire en sorte que, pendant la saison sèche, l'eau qui devrait alimenter la rivière à partir des écoulements latéraux ou bien des écoulements de base n'est plus suffisante pour alimenter les rivières ou bien les cours d'eau. C'est ainsi que nous sommes en train de voir les tarissements. Alors, cela provient
alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a plus assez d'infiltration au niveau du sol comme c'était avant?
Ça, les activités humaines, l'occupation que je peux appeler l'occupation anarchique de terres, mmh, l'urbanisation que je peux appeler urbanisation sauvage. Ce sont là les faits qui font que on puisse perturber les systèmes naturels pour qu'il n'y ait plus d'infiltration et il y a seulement le ruissellement de surface qui ne persiste pas dans un cours d'eau ou bien dans une rizière. Et empiètement aussi des zones de recharge. C'est ce que nous sommes en train de voir dans la plupart de nos cités qui sont en train de se développer, de grandir. Mm-hmm. C'est ce phénomène-là qui arrive de plus en plus.
L'empiètement, c'est quoi l'empiètement des... C'est-à-dire l'occupation, des terrains.
Des terrains, des zones de recharge, puisqu'il y a aussi sur un terrain, sur ce qu'on peut appeler un bassin versant, il y a des zones de recharge qui permettent à ce que l'eau puisse s'infiltrer en grande quantité pour remplir les aquifères. D'accord. Et constituer un réservoir d'huile pour alimenter les cours d'eau.
Voilà, et quand ces réservoirs commencent à manquer d'eau, donc c'est là qu'il y a des problèmes. On va accueillir Drop de Guémena. Drop, bonjour.
Ah, bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation par rapport à ce thème?
Oui, par rapport à ce thème, nous avons le même problème ici chez nous, ici à Guémena. Avec la rivière Mumbunga, qui auparavant, on connaissait qu'en 2006, nos frères naviguaient sur cela, prenaient les pirogues, pêchaient. Aujourd'hui, avec le boom de la population, la rivière est vraiment tarie. Vous trouverez que la population venait jusqu'à commencer à irriguer cette rivière-là pour implanter des maisons. Et on n'a plus moyen de trouver là où on pourrait mettre même des pirogues pour circuler. Donc ce système-là, nous ne comprenons pas. Nous ne savons même pas comment faire pour remédier à cette situation. Il y avait même des arbres qui étaient là, il y avait même certains pêcheurs qui venaient chasser dans cette rivière qui aujourd'hui c'est un problème. L'eau n'existe même pas. Dans certains coins où on contournait Guémena, ça devient difficile. Aujourd'hui, vraiment, c'est très difficile. Nous ne savons même pas ce que nous pouvons faire pour renouveler à cause de cette rivière-là.
Oui, Drop, vous voulez dire que la rivière Mumbunga n'existe plus?
Pas totalement comme auparavant. Donc, à certaines parties ou certaines places n'existent même pas. Et si vous demandez aux enfants qui connaissaient Mumbunga à l'époque, qui aujourd'hui vous dites qu'il y avait Mumbunga ici, ils vous diront que ce sont plutôt des maisons qui se sont construites à la place de Mumbunga. Il y a des maisons même qui se trouvent là où il y avait les rivières.
D'accord. Merci, Drop de Guémena. Clémenda et de Kananga, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, Daniel Nkajama. Bonjour aussi à l'invité, à toute l'équipe de la radio Kati.
On vous écoute, Clément. Là-bas aussi, à Kananga, il y a des problèmes avec les cours d'eau, les rivières.
Ah oui, normalement, c'est la zone pour laquelle j'en profite pour demander à notre invité. Il arrive parfois que nous avions certaines sources d'eau et qu'en cas de l'agriculture, deux fois... La construction de certaines maisons, on cherche même à déplacer la source, la soi-disant, on déplace la source, puisque selon sa définition, il a dit que non, c'est un canal naturel. Mais au cas où, la source là a été déplacée à quelque chose de 15 mètres, voire même 25 mètres. Ou si ce n'est pas le cas, soi-disant, on a construit et qu'on interdit aux gens de ne plus y passer, soi-disant, il n'y a pas de route ici, il n'y a pas de passage ici, et que la source là est abandonnée. Dans ce cas, comment normalement on peut arriver à récupérer la source et quel conseil à donner à certaines personnes qui ont l'habitude de déplacer cette source-là. La deuxième question, c'est vrai que ici nous avions l'habitude, pour attraper le poisson, on passe à utiliser certaines plantes toxiques, soi-disant on va piler ça et puis mettre ensemble avec certaines choses et par après on va mettre sur la rivière. Et puis à ce moment-là, juste pour tuer le poisson, à un moment, vous voyez que non, la source commence à perdre vraiment ses propriétés naturelles. Ou deux fois, c'est l'abandon totalement de cette source-là. Ou deux fois, c'est les gens qui n'arrivent même pas à fréquenter, soi-disant, il y a certaines cérémonies, quoi que ce soit, qui se passent là-dessus. Surtout, l'utilisation des plantes toxiques là pour attraper le poisson. C'est la raison pour laquelle je voudrais demander à notre invité, au cas où, dans cette rivière-là, cette source-là, on a l'habitude d'utiliser les plantes toxiques et que les gens ont peur d'y passer pour puiser de l'eau, soi-disant, soit qu'ils fréquentent, soi-disant, ce qu'on utilise là-bas, c'est vraiment néfaste à l'organisme. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il est permis de faire des pratiques pareilles dans des sources fréquentées par les gens? Et puis, c'est ça ce que je voulais juste savoir et j'aimerais vous souhaiter bonne journée chez vous à toute l'équipe de la radio Kapi.
Merci Clément Ndaye de Kananga. Malunga, vous êtes à Bandunduville. Bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, bonjour à notre invité.
Quelle est votre préoccupation?
Ok, merci. Nous, ici à Bamendéville, nous sommes les victimes de l'assèchement de l'eau. Et que je voudrais vous informer à celui qui connaît déjà Bamendéville et il connaît avant de pénétrer la ville, il faut traverser la rivière Tille. Or, là, partout qu'on traverse, avec des pirogues basses et des orbes, il y a déjà les eaux de la rivière Kwango et Kwil qui courent en une rivière. Donc, il y a la partie, il y a les eaux de deux rivières. Mais à ce moment-ci, la saison passée, la saison sèche, là-bas, il y a une très sérieux problème pour traverser les automobiles et aussi d'autres choses. À ce moment-ci, ça s'annonce encore. Il y a la partie de l'île de sable qui commence à sortir entre la rivière.
Bon, entre les deux rivières, Kwilu et Kwango.
Oui. Et puisque la partie de traverser pour arriver à Bamendéville, il y a déjà les eaux de Kwango et de Kwilu.
Donc, Malonga, vous voulez dire qu'il y a un certain point où les eaux du Kwango et du Kwilu se rencontrent?
Oui, c'est dans les périphériques de la ville, où la rivière Kwango se jette dans la rivière Kwilu. Alors, à quelques 2000 mètres et 2 300 000, c'est ici la traversée. Pardon. C'est ici la traversée. Alors, les eaux de la rivière Kwango et de Kwilu, c'est ainsi les vieilles coulent. Et à quelques 3000 mètres aussi, se jette dans les cataractes. Mais on regrette la saison sèche qui était passée. On était surpris, une île de sable apparaît au milieu. Or, c'est là où on traverse avec les pirogues et bas aussi traverse là-bas. Là-bas qui peut traverser, en tout cas, c'est un problème. Aujourd'hui aussi, ça annonce déjà. Il y a les pirogues qui commencent à faire sortir les sables au milieu de la rivière. Alors, on se demande, qu'est-ce qu'on va faire? Le baliseur ne vient pas. L'année passée n'était pas ici. À cette année aussi, il ne s'annonce pas. On fait ce quoi? J'avais suivi une chaîne internationale dans mon téléviseur. On dit qu'avec le trouble climatique qui est notre vision, sur le niveau environnemental, il y a aussi les rivières qui commencent à se diluer là, au pôle nord, où la planète sera aussi utile d'avoir l'augmentation d'eau. Alors, dans ce cas-là, j'ai dit oui, qui se fait à gauche, qui se fait à droite. Comme la sécheresse évaporée est ici, de l'essai ici, et comme si la sécheresse dilue le neige là, donc la planète va se régulariser et on va se récupérer. Comment encore ce phénomène ne se concrétise pas comme il faut? Ici, nous sommes les victimes de la sécheresse, là aussi, au pôle, ils sont aussi les victimes suite à la diminution des neiges. En tout cas, les vitesses, c'est le sensif pour cette information.
D'accord.
On risque d'être seulement les victimes à tout.
D'accord. Merci Malonga de Bandonville. Professeur Raphaël, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Il y a eu des questions très intéressantes, mais qui montrent toute la problématique des gestions des territoires, la problématique des gestions de bassins versants. Lorsqu'il y a déjà occupation
anarchique
des terres, lorsqu'il y a déboisement, lorsqu'il y a empiètement des zones de recharge, nous sommes en train de voir tous ces phénomènes d'assèchement des cours d'eau. Je me dis, nous ne devons pas couvrir nos faiblesses ou bien nos erreurs avec la question du changement climatique. La question du changement climatique, c'est une question globale qui touche surtout les secteurs de l'eau. Mais chez nous, moi je dirais que nous n'avons pas encore des preuves tangibles d'assèchement des rivières dû au phénomène de changement climatique. Ce n'est pas encore tangible, ce n'est pas encore prouvé.
Donc si nos rivières tarissent, c'est à cause de l'activité humaine.
C'est à cause de l'activité humaine qui est primordiale, qui pose beaucoup de problèmes. Alors, si nous devons aborder ces questions, c'est que nous devons revoir nos pratiques d'occupation de terre. Je vois M. Malonga de Bandundu qui est en train d'évoquer la question de Kwango, Kwilo, Kasai. Je vais lui dire que il y a deux mois, j'étais sur Kutumuke en traversant Kwango, Kwilo, où j'étais parti installer des stations de mesure de l'eau dans les enceintes automatiques des niveaux d'eau. Et vous allez voir là-bas, c'est un problème d'ensablement. Et d'où vient le sable qui est en train de remplir
le Kwango, le Kwilo,
le Kasai, à cette partie là-bas. Et ça pose même les problèmes des navigations.
Oui, ouais. Dit là où les pirogues passaient avant, les hors-bord, et les aujourd'hui c'est plus possible.
Exactement, moi j'étais il n'y a pas longtemps, il y a deux mois j'étais sur les sites.
Oui.
C'est que là... On revient à la définition même exacte, la définition des gestion de l'assèchement des cours d'eau. Voilà, oui. Pour dire que on parle de l'assèchement lorsque un débit d'une certaine magnitude, d'une certaine durée et d'une certaine fréquence n'est plus observé dans les cours d'eau. Alors, ces débits-là remplissent des fonctions, quelques fonctions. Données. C'est qu'il y a par exemple la navigation. Et dans le cas de Bandundu, nous sommes en train de voir cela. Nous sommes en train de voir que la navigation maintenant pose des problèmes
à cause des bandes de sable.
Des bandes de sable qui proviennent des activités humaines ou bien de l'occupation anarchique des terres. Nous avons le cas de M. Ndaye qui nous appelle de Kananga. Ils ont le même problème de...
Ils parlent de du déplacement. Est-ce qu'on peut déplacer la source d'une rivière ou d'un cours d'eau?
Non, c'est un peu difficile qu'on puisse déplacer la source la source d'un cours d'eau. C'est que si la source d'un cours d'eau a connu des problèmes, c'est qu'elle a connu des problèmes, elle subit des modifications qui font qu'elle ne puisse plus contribuer efficacement à produire de l'eau pour les cours d'eau ou bien pour la rivière. Mais il est en train d'évoquer le cas d'utilisation des plantes toxiques pour la capture des poissons. Mais ça sont des pratiques qui sont interdite par la loi. C'est que la loi, dans ce cas, doit être appliquée. Là, je pense que nous sommes en train d'aller vers les solutions. La loi doit être appliquée. Il y a la loi dans ce pays qui prohibe ces pratiques. La loi doit être appliquée. Nous avons M. Drop qui nous a appelé de Guémena.
La rivière Mbonga.
Exactement. Vous allez voir que c'est toujours le même problème d'occupation anarchique des terres.
C'est ce que nous dit d'ailleurs quelques internautes. Daniel Chibongo Mangenda nous a écrit depuis le Kasaï central sur la page Facebook d'Okapi Service. Il dit, dans un pays où le phénomène d'étarissement des rivières est devenu presque similaire, quelles seront les mesures à prendre pour éviter cet étarissement? Aujourd'hui, nous constatons que plusieurs rivières sont en train de disparaître à cause de la déforestation. Quelle peut être la solution pour éviter la disparition de tous ces cours d'eau? Emmanuel Touambe de Bounia, je pense que cet tarissement est dû au comportement de la population parce que beaucoup de gens déversent des immondices dans les rivières. C'est le cas de la rivière Nyamukawa, Ngezi, dans la ville de Bounia. La vérité est en ligne depuis Lubao. Bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Bonjour La Vérité. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Voilà ma préoccupation. Le Congo, c'est un pays uni, pas de division. Et bientôt, quand je pars ici, mon fils est torturé, il a des plaies, il quitte le Congo à 200 km de Lubao, arrivé à 60 km de Lubao dans la territoire de Lubao, il a trouvé un capitaine et des militaires.
La vérité. Alors, vous êtes complètement hors sujet, on ne peut pas. Merci d'avoir appelé. Bodik, on va prendre Bodik Odezongo. Nous parlons plutôt du tarissement, de l'assèchement des cours d'eau. Bodik, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour, c'est l'invité.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à au tarissement des cours d'eau?
D'accord. Jody, moi, je suis dans la. Moi, je suis dans la rivière Sidoubangui, dans la ville de Zongo. Hein. À un moment donné, nous avons constaté l'étarissement de la rivière Ubangi. Mais ce qui... Je voulais en fait poser seulement des questions à l'invité. Pourquoi il y a eu donc perturbation cette saison? Or, nous avons connu qu'en la saison pluvieuse, l'eau gonfle trop. Tandis qu'à la saison sèche, l'eau diminue. Mais nous avons compris que c'est cette saison ici, là, l'eau à la saison sèche, ça a gonflé, tandis qu'à la saison pluvieuse, ça a diminué. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je voulais poser la question à l'invité. Ce phénomène-là qui est vu, c'est quand l'eau tarit. Quand l'eau tarit, ça va où? Et quand ça gonfle, ça vient d'où? C'est ce que je voulais un peu poser la question à l'invité. Parce que je suis là sur place. Maintenant, là, les pêcheurs sont en train de se déranger sur l'étarissement de la rivière.
De la rivière Ubangi. Merci.
Ubangi, oui, Ubangi, voilà.
D'accord, merci. Professeur Raphaël, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oh, merci beaucoup. Nous avons aussi un autre cas de la rivière Ubangi qui est un cas un peu différent des autres cas que nous retrouvons surtout en RDC. Mm-hmm. Là, c'est plus un cas naturel, puisque nous avons vu que Ubangi était initialement navigable sur 8 à 9 mois. Mais actuellement, la navigation sur Ubangi, c'est 4 à 5 mois. Donc, il y a eu diminution sensible des niveaux d'eau. Mm-hmm. Ça, c'est un phénomène naturel, un phénomène climatique. Il y a eu une grande variabilité climatique. Il y a eu diminution
des précipitations,
des pluies, exactement. Il y a diminution des pluies, ce qui a affecté la disponibilité de l'eau dans les cours d'eau.
Mais lui nous parle plutôt d'un phénomène contraire. Pendant la saison sèche, il y a montée des eaux. Pendant la période de pluie, il y a diminution.
C'est un phénomène qui en principe, ne peut pas s'expliquer, mais j'ai dit, c'est lui qui est sur terrain. Il faut maintenant voir, puisque il peut y avoir soutirage quelque part. C'est que il peut y avoir des soutirages très très importants en amont de l'Ubangi. Ça, c'est quelque chose que nous devons vérifier. Il peut y avoir des
avec
soutirages...
le projet du Tchad.
C'est quelque chose qui doit être vérifié, si l'information, puisque c'est lui qui est sur terrain. Voilà,
est-ce qu'on n'est pas déjà en train de soutirer de l'eau quelque part?
Exactement, puisque nous avons entendu même des bruits comme cela, qu'on serait déjà en train de prendre de l'eau.
Prendre l'eau de l'Ubangi.
Oui, mais ce n'est pas confirmé, ce n'est pas vérifié. Mais si l'information nous vient de la personne qui est sur terrain, l'information qui, en principe, dans le contexte normal, ne peut pas s'expliquer. Là, nous devons voir un peu s'il y a eu soutirage en amont.
Voilà, donc il faut mener des enquêtes pour savoir si, qu'est-ce qui cause ces perturbations.
Exactement.
Albert, vous êtes à Kananga, bonjour. Bonjour Albert.
Oui, je suis en ligne. Oui.
Quelle est votre préoccupation par rapport au tarissement, à l'assèchement des cours d'eau?
Oui, merci beaucoup. Bon, j'aimerais un peu demander à notre invité. On sait très bien qu'il y a un projet entre le gouvernement congolais et le gouvernement tchadien pour le transfert d'eau douce de notre pays à travers, je ne sais pas, les canaux. Vers le Tchad, comme ça.
Bon, vous dites qu'il y a un projet, mais on a appris que le gouvernement, le Parlement, le gouvernement n'est pas d'accord par rapport à ces projets.
On n'est pas d'accord parce que je ne sais pas ce qui peut arriver. On peut changer la position et on accepte ce projet-là. Et je demande à notre invité quel danger que nous. Je pense, n'est-ce pas, nous allons courir au danger-là. Nous allons subir beaucoup de conséquences concernant l'achèvement comme ça. Est-ce que c'est un bon projet à matérialiser? Ça, c'est la première préoccupation. Et la deuxième, en fait, M. Jody, je pense que Bon, les gens ont occupé partout, même là où il y avait d'eau comme ça, des flaques ou des étangs comme ça, des étangs sont... On a transformé les étangs en maisons, comment? Je ne sais pas, avec ça, bon, donc on est un peu exposé à cet achèvement d'eau-là. Merci.
Merci.
Comment on peut lutter à ce phénomène?
D'accord. Amoury, vous êtes en ligne depuis Kisangani, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes de la radio Okapi, service.
On vous écoute, Amoury.
Bon, dans ma préoccupation, je salue toutes mes compatriotes qui me suivent de la radio Okapi à rapport des déplacements de la source à un autre endroit. Ça dépend de la direction de la source pour trouver aussi, planifier aussi les directions pour canaliser aussi de l'eau.
Voilà, merci pour cette contribution. Je m'en vais lire rapidement quelques réactions sur la page Facebook. Emmanuel Touambé, j'ai déjà lu. Dieu merci, Bolito, depuis le territoire de Bongandanga, dans la Mongala. Le facteur à la base du tarissement des eaux, voilà, il nous dit que c'est la vente à des terrains à moins de 10 mètres le long d'une rivière, et cela entraîne le tarissement. Qu'on laisse au moins un espace vert entre 50 à 80 mètres le long des rivières et 100 à 120 mètres d'une source d'eau. Et sa question est de savoir, est-ce que la nappe souterraine va-t-elle absorber l'eau à un espace tari quand on fait le drainage? C'est la question des Bolito des Bongandanga. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet auditeur?
Ouais, merci.
C'est internaute.
Oh, ouais. Merci beaucoup. Je commence par Monsieur Albert qui évoque la question de
du transfert de l'eau.
Je dirais, le gouvernement s'est déjà prononcé cette question. Le gouvernement a demandé à ce qu'il y ait des études approfondies menées par des experts congolais que nous sommes. Mmh. Et nous attendons à ce que cela puisse se réaliser. Mais c'est que, en réalité, les projets, c'est un projet qui, si mis en exécution, va avoir beaucoup d'impact négatif sur les ressources en eau de la RDC du bassin du Congo, puisque ce qu'on demande, cela, c'est à peu près 100 milliards de mètres cubes par an, ce qui représente à peu près 3000 mètres cubes par seconde.
Alors que Oubangui a déjà des problèmes.
Oui, qui représente à peu près plus de 20% du volume d'eau qu'on prélèverait chaque année de la cuvette centrale. Avec toute la biodiversité aquatique qui contient la cuvette centrale, je pense que on va avoir beaucoup de conséquences.
Oui.
Mais aussi, la question, ce n'est pas seulement de transfert de l'eau, mais qu'est-ce que nous faisons de nos ressources en eau que nous avons ici? Comment est-ce que nous sommes en train de les gérer? Sommes-nous en train de gaspiller nos ressources en eau? Et moi, je suis d'avis que nous sommes en train de gaspiller nos ressources en eau. Si les autres sollicitent de l'eau chez nous, ce n'est pas parce qu'ils en manquent. Ce n'est pas seulement parce qu'ils manquent de l'eau chez eux, mais aussi c'est parce que nous n'avons pas des projets sur nos ressources en eau. Les projets de développement des ressources en eau. Que nous, pour pouvoir aménager nos ressources en eau, nous développer à partir de nos ressources en eau. Je vous dis, messieurs les journalistes, c'est que il y a à peu près 1,3 milliard mètres cubes que nous sommes en train de déverser chaque année dans le fleuve. Et nous n'utilisons même pas les 10% de cela. Moi, je pense que là, c'est quelque part du gaspillage et nous devons penser à pouvoir avoir un chemin directeur de l'eau pour notre pays. Ça, c'est quelque chose qui va permettre à ce que nous puissions utiliser nos ressources en eau d'une façon optimale et ne pas les gaspiller. Puisque pour le moment, moi, j'ai dit, mon avis d'un expert, d'un scientifique, nous sommes en train de gaspiller de l'eau et nous devons changer cette attitude-là.
Albert a parlé aussi des étangs, les gens qui construisent des maisons à côté des étangs, tout ça c'est créé de problèmes.
Oui, oui. Normalement la loi, c'est pourquoi j'ai dit, la loi doit être appliquée. Nous avons, ce que je peux dire, trois piliers de la gestion de l'eau. Nous avons la durabilité environnementale, qui s'impose. Nous avons l'efficience économique, c'est que nous devons nous développer à partir de nos ressources en eau. Et nous avons l'équité sociale, c'est que nous devons favoriser l'épanouissement social à partir de nos ressources en eau. Alors, pour cela, pour que nous puissions y arriver, nous avons besoin des outils de gestion. Nous avons besoin des données. Nous avons besoin des informations. Nous avons besoin que nous puissions faire les suivis pour connaître cette eau, quel est l'état de ces cours d'eau en cette période de l'année et que va devenir ces cours d'eau après 10 ans, après 5 ans. Nous devons faire ces suivis-là. Pour le moment, nous ne sommes pas en train de le faire. C'est que si nous sommes en train de le faire, il y a, je vois la RVF qui est en train de faire les suivis, mais...
La régie des voies fluviales.
Oui, la régie des voies fluviales. Mais c'est que il y a lieu de pouvoir renforcer ces institutions. Nous avons le cadre, l'environnement favorable, le cadre législatif. Nous devons avoir la loi. La loi venait d'être promulguée par signée par le président de la République en 2015. Et, mais la loi doit être appliquée. La loi n'est pas appliquée.
Qu'est-ce qu'elle prévoit
exactement, cette loi? Exactement. La loi prévoit des périmètres de protection.
Des cours d'eau.
Des cours d'eau.
On ne doit pas construire à côté des...
Non. C'est qu'il y a un certain périmètre de protection qui est préservé, qui doit être gardé pour permettre le bon fonctionnement du cours d'eau. C'est que pour que les cours d'eau puissent... Puisque lorsqu'on parle du cours d'eau...
Dieu merci, parle de 100 à 120 mètres.
Vous parlez aujourd'hui...
Et puis, dit qu'on doit laisser un espace vert entre 50 à 80 mètres.
Oui, j'ai dit, ça dépend des types de cours d'eau. C'est là même, la loi n'est pas spécifique sur cette question. Nous avons, par exemple, le fleuve qui a les zones d'inondation qui s'étendent à plus de 200 mètres, par exemple. Et vous dites qu'on va laisser 80 mètres, on va laisser 40 mètres, tout ça, ou bien on va laisser 100 mètres, ça ne convient pas. Vous n'allez pas... Là, nous devons distinguer les types de cours d'eau. Nous avons les cours d'eau de premier ordre, les cours d'eau de deuxième ordre, troisième ordre, et pour le fleuve Congo, nous partons jusqu'à septième ordre. Et nous devons voir leur étendue. Le cours d'eau est constitué du lit mineur, du lit moyen et du lit majeur, et aussi de la zone d'inondation. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on vient empiéter la zone d'inondation. Alors, nous devons maintenant, la loi doit être spécifique pour déterminer quelle est l'étendue de la zone d'inondation. La zone d'inondation peut aller jusqu'à 10 mètres. Elle peut aller jusqu'à 300 mètres.
Et les gens ne doivent pas construire dans cette dans ce périmètre-là.
Ne doivent pas construire dans ce périmètre-là. Les gens ne doivent pas construire là. Et là, c'est le travail. La loi est là, la loi est un peu muette sur ce point-là, mais c'est le travail des techniciens pour pouvoir déterminer les types de périmètres de protection qui doivent être déterminés pour chaque cours d'eau. Et actuellement, nous sommes au centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, qu'on appelle CREBAC, un centre qui vient d'être créé à l'Université Kinshasa. Nous sommes en train de nous occuper de ces questions pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons apporter des éléments techniques afin de pouvoir bien appliquer la loi de l'eau qui venait d'être promulguée. Là, je parlais du cadre légal.
Un instant, professeur, le temps de recueillir la question d'André Badi Kadile, qui nous a écrit sur la page Facebook d'Okapi Service. Ce phénomène est dû à la mauvaise exploitation de ces ressources naturelles par les autochtones, d'où, pour parler à ceci, il faut enseigner la population riveraine et aussi tous les sujets étrangers de limiter leur exploitation. André Badikile, depuis la ville de Kananga. Ben Oscar Cicéron Kabouya, à Kananga, nous dit, dans mon quartier où je vis, nous assistons non seulement à ces phénomènes de tarissement regrettable des cours d'eau, mais bien plus, certains d'entre eux changent même des couleurs, jaune, rouge. Alors, l'invité peut nous dire qu'est-ce qui cause ces changements brusques des couleurs au niveau des cours d'eau?
Ah oui,
professeur Raphaël.
Oui, je termine l'idée que j'étais en train d'évoquer sur la question institutionnelle, et puis je vais évoquer ça. C'est vraiment nos rivières, nos cours d'eau sont devenus des potoirs de matière organique.
On
pour jeter dans... C'est même un problème culturel. Nous devons lutter contre ça. Mmh. Alors, il y a le cadre institutionnel qui doit être établi. Il y a les attributions des institutions qui interviennent dans le secteur de l'eau. Actuellement, là, nous avons la direction des ressources en eau, par exemple, du ministère de l'Environnement, qui s'occupe de la protection. C'est vraiment dans ces attributions, de la protection, des suivis des ressources en eau. Alors, cette direction-là doit être renforcée. Mais nous sommes aussi en train de voir, puisque dans le cadre institutionnel, et chevauchant. Il y a les attributions qui chevauchent beaucoup. Il y a le ministère de l'énergie, ministère de l'environnement et tout ça. Il y a les attributions ne sont pas vraiment
bien déterminées.
Quand bien même ça peut être déterminé, vous allez voir que non, les redevances qui devaient revenir, par exemple, à la direction des ressources en eau pour permettre à cette direction de pouvoir assurer son rôle de suivi, protection des ressources en eau, ces redevances-là, on dit non, ça doit revenir à notre ministère. Alors,
c'est la confusion.
Oui, la confusion totale, et nous disons que là, nous devons arriver à mettre en place le ministère en charge de l'eau qui va s'occuper de toutes ces questions, et on va éviter cette confusion, puisque cette confusion nous amène à la faiblesse et nous ne savons pas comment intervenir efficacement sur terrain, et nous sommes en train de voir tous ces problèmes d'assèchement, et les rivières sont devenues des dépotoirs. Vous voyez, quelqu'un qui prend ses ordures, ses immondices, même les toilettes sont vidées dans les
cours d'eau.
Et qu'est-ce que ça fait? Ça change même la qualité de l'eau. Ça change la qualité de l'eau. Et il y a aussi un problème de sédimentation qui fait que la rivière n'est plus capable de pouvoir assurer sa capacité de transport de la charge solide. Et avec un faible débit, la rivière se transforme et ça devient vraiment un égout. Et il y a un autre écosystème qui se développe là-bas. Donc ce n'est plus normalement un cours d'eau naturel que nous étions en train de voir. Et par ça, nous sommes en train de... Par exemple, ici à Kinshasa, nous sommes en train de voir ça partout. Regardez toutes nos rivières.
Toutes les rivières sont polluées.
Oui, regardez même leurs couleurs et tout ça. Vous ne pouvez même pas aller...
Des bouteilles d'eau, toutes sortes de saletés.
Exactement.
Dedans.
Moi, je dis, c'est aussi un problème. Nous devons avoir une campagne, comme vous êtes en train de le faire, messieurs les journalistes, une campagne de sensibilisation, une campagne d'éducation de la population. Notre population doit être éduquée à pouvoir garder l'eau, protéger l'eau, à pouvoir gérer l'eau. Et c'est là, donc, le gouvernement doit s'investir. Les scientifiques doivent s'investir, les journalistes doivent s'investir pour que nous puissions arriver à des résultats meilleurs. Sinon, nous allons arriver à la disparition de ces cours d'eau. Moi, je dis que les cours d'eau a une vie. Les cours d'eau naissent, les cours d'eau grandissent, les cours d'eau meurent. Et là, nous sommes en train d'assister à la disparition ou bien à la mort de nos cours d'eau.
Nous devons agir. Nous devons agir. Willandja Pascal nous a écrit depuis Ouvira. Il dit, ici à Ouvira, l'assèchement de nos rivières est dû au changement climatique. Il dit, on a fait même 3 mois sans voir la pluie. Les pluies ne tombent plus là-bas depuis 3 mois. Et nos dirigeants doivent chercher des moyens pour mettre fin à cet assèchement. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Merci beaucoup. Je suis à Ouvira, il y a un centre de recherche en hydrobiologie. J'étais à Ouvira pour faire certains travaux.
Oui.
Mais vous allez voir, à Ouvira, c'est vraiment sur une pente. Hein. Vous allez voir combien de charriages, des sédiments. Les sédiments sont vraiment générés en grande quantité de ces versants. Et ça, je pense que notre ami de Ouvira doit d'abord penser à cette pratique de conservation des sols, la pratique de protection des bassins versants avant de s'attaquer au changement climatique. Puisque nous pouvons être avec vous, vous allez prendre pour cette année, vous prenez la moyenne des pluies à Ouvira, vous prenez la moyenne d'évapotranspiration à Ouvira. Je ne pense pas que l'évapotranspiration a dépassé la moyenne de pluie. Alors, nous parlerons des changements climatiques lorsqu'il y a des écarts importants entre la quantité d'eau évaporée et la quantité d'eau qui est tombée par la pluie. Je n'ai pas obtenu de données de Ouvira, je n'ai pas fait cet exercice-là, oui. Mais je lui demande de pouvoir d'abord faire cela, oui. Mais plus les conseils que je peux donner à notre ami d'Ouvira, c'est de pouvoir s'attaquer à la gestion de bassins versants. C'est très important.
Anissé Timbou nous appelle depuis le Tanganyika, Manono. Il dit ce qui cause l'étarissement aujourd'hui des rivières et cours d'eau, des étangs, et puis c'est les déboisements qui ne cessent de prendre de l'ampleur et sujet de la fermeture même de la pluie. Sachez bien que lorsqu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. D'après lui, le déboisement est à la base de la diminution. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire, la diminution des pluies. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, moi je suis en train de soutenir ce qu'il est en train de dire.
Le déboisement a un impact sur le niveau d'eau.
Exactement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque il y a déboisement, il y a déforestation, c'est que on favorise plus le ruissellement de surface que l'infiltration. Alors, nous allons réduire les volumes d'eau ou bien la quantité d'eau dans les réservoirs souterrains et favoriser plus les volumes d'eau qui s'écoulent, qui ruissellent. Alors, ce volume-là, ça n'a pas une grande durée dans les cours d'eau et ça s'évade. Et les cours d'eau devraient être alimentés par les volumes d'eau ou bien la quantité d'eau dans les réservoirs souterrains qui alimentent la rivière lentement.
Professeur Rappel, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour protéger les cours d'eau et les rivières que nous avons?
Moi, je dis, c'est que nous devons réellement commencer la campagne de suivi de nos ressources en eau, avoir des données qu'il nous faut, des données nécessaires, des informations qu'il nous faut, afin de pouvoir mettre en place les outils de suivi, de gestion de l'eau. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous devons appliquer la loi. La loi peut avoir ses faiblesses d'une façon ou d'une autre, mais la loi est déjà là et aborde la plupart d'aspects que nous sommes en train d'évoquer.
Mais cette loi n'est pas toujours appliquée.
Voilà. Mais il faut des institutions. Il faut renforcer la capacité institutionnelle.
Oui.
Il faut pourvoir les ressources humaines pour que la loi soit appliquée. Et c'est là le triangle que je suis en train d'évoquer, que nous devons appliquer. Nous sommes dans ce triangle-là. Si nous allons nous atteler à l'application de ce triangle, moi je pense que nous allons résoudre la plupart des problèmes d'occupation anarchique, d'urbanisation sauvage, les déboisements que nous sommes en train de faire et tout ça, c'est plus les causes des dessèchements.
Dessèchement des cours d'eau et rivières.
Et aussi... Les ordures,
les saletés qu'on jette dedans,
que nous sommes en train de jeter. Je pense que nous devons établir des normes.
D'accord. Merci professeur Raphaël Chimanga. Je rappelle que vous êtes hydrologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je sens que vous avez encore beaucoup de choses à dire. On n'a plus de temps. On aura l'occasion d'y revenir prochainement. Merci et excellente journée.
C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes. Et bonne journée.